Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à tous. Ça y est, l'Allemagne et l'Europe ont lancé les festivités autour du 500e anniversaire de la réforme protestante de Martin Luther. Cette semaine, nous allons nous pencher sur la façon dont les églises catholiques et protestantes gèrent leurs finances en Allemagne. Et puis en seconde partie, comment ne pas parler des élections américaines? Lorsque vous écouterez cette édition de Vue d'Allemagne, on connaîtra probablement le nom du vainqueur du scrutin le plus médiatisé au monde. Nous allons donc revenir sur le bilan de celui qui occupe encore pour quelques semaines la Maison Blanche. C'est Constance Dunkotse au micro. Bienvenue à l'écoute de ce magazine.
Lord help me, Jesus. I've wasted it. So help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hands.
Qu'elles soient catholiques ou protestantes, les églises sont parmi les institutions religieuses les plus riches au monde. En Allemagne, plusieurs diocèses ont dévoilé récemment leur patrimoine et tout en haut de la liste trône l'évêché de Munich avec un confortable matelas d'environ 6 milliards d'euros. Notre correspondante dans la capitale bavaroise, Isabelle Hartmann, s'est intéressée au financement des églises.
I need money. Money right now.
Des problèmes d'argent? Les églises catholiques et protestantes n'en ont pas. Au cours des derniers mois, les communautés ont commencé à rendre public leur patrimoine. Côté catholique, ce sont les évêchés de Cologne, Paderborn et Munich qui tiennent actuellement la tête. Leur patrimoine pèse entre 3 et 6 milliards d'euros environ. C'est beaucoup, et pourtant ce n'est pas tout. Car des milliers de fondations liées à ces évêchés n'ont pas encore été prises en compte dans le calcul. Mais qu'importe la somme finale, pour le chef des finances de l'évêché de Munich, Markus Reif, ce patrimoine est une chance et il n'est pas question d'y toucher.
Notre conception en tant qu'Église est que nous n'avons pas le droit de dépenser aujourd'hui les ressources dont nous disposons. L'Église pense à long terme, il est de notre responsabilité que les générations futures trouvent à leur tour un fondement financier stable afin qu'elles aussi puissent remplir leur mission ecclésiale.
Les églises peuvent se permettre de ménager leur patrimoine car elles ont d'autres sources de financement pour leur travail au quotidien. La plus importante de ces ressources est l'impôt ecclésiastique, un système unique au monde. Le principe, tout citoyen imposable appartenant à une communauté religieuse reconnue par l'État allemand doit verser l'équivalent de 8 ou 9% de son impôt sur le revenu à son église. L'État récolte directement l'argent et le redistribue ensuite au diocèse. Les communautés catholiques et protestantes financent ainsi les trois quarts de leurs dépenses, leurs employés, leurs bâtiments, leurs œuvres caritatives en Allemagne et à l'étranger. En 2016, les évêchés catholiques de Bavière auront engrangé environ 530 millions d'euros d'impôts ecclésiastiques, l'église protestante bavaroise environ 730 millions. Markus Reif, le comptable en chef du diocèse munichois, reconnaît sa chance.
Si nous n'avions plus la taxe ecclésiastique, il est clair que nous ne pourrions plus employer 16 000 personnes dans notre diocèse. Les crèches, les écoles, les services sociaux, mais aussi la conservation de nos monuments dans de petits villages, tout ceci ne serait plus possible. L'Église ne disparaîtrait pas, elle continuerait d'être présente sous forme réduite, mais je crois que la société y perdrait grandement.
Carsten Frerek ne voit que propagande dans cette argumentation. Le politologue est un critique virulent des églises et s'intéresse depuis longtemps à leurs finances. Selon ses calculs, les œuvres sociales, comme la caritas chez les catholiques ou la diaconie chez les protestants, ne sont financées qu'à hauteur de 1,8% par les communautés religieuses. Le reste est pris en charge par l'État. Même chose pour le personnel des crèches, maternelles et écoles, par exemple. Les évêques et des dizaines d'autres dignitaires catholiques et protestants sont aussi payés par les régions allemandes. Pour Carsten Frerek, les églises exagèrent délibérément l'importance réelle de l'impôt ecclésiastique.
parce qu'elles ne veulent pas perdre leur aura selon laquelle elles font quelque chose de bien. D'un côté, on explique aux croyants combien l'impôt est important. Il est important, mais pas autant que ce qui est dit. D'un autre côté, on donne bonne conscience à ceux qui payent et à ceux qui voudraient quitter l'Église. On leur suggère, si tu nous quittes, cela aura de graves conséquences sur notre travail social.
Propagande ou pas, la façon dont les églises gèrent l'argent du contribuable fait régulièrement l'objet des gros titres de l'actualité. Les plus récents, 12 millions d'euros perdus par le décanat luthérien évangélique de Munich suite à de mauvais investissements. Ou encore les 31 millions d'euros investis par l'évêque Thebartz van Elst dans la rénovation de son palais épiscopal à Limbourg. À l'heure où le pape François appelle de ses voeux une « église pauvre pour les pauvres » et dénonce un système économique qui tue, les églises allemandes savent qu'elles sont sur la sellette.
Et je vous le disais en début d'émission, l'Allemagne a lancé l'année Luther le 31 octobre dernier à Berlin. Mais en réalité, c'est tout le pays qui va vivre pendant un an au rythme de multiples événements, expositions, concerts et débats, en relation donc avec le père de la réforme protestante. Nous en reparlerons.
Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America.
Les États-Unis sont plus qu'une collection d'États démocrates et d'États républicains, disait Barack Obama le soir de son élection en novembre 2008. Deux mandats plus tard, le premier président noir du pays est sur le point de rendre les clés de la Maison-Blanche. L'heure est donc au bilan.
Je suis Daniela Schwarza, je dirige l'Institut DGAP. C'est un think tank en Allemagne, à Berlin, qui s'occupe des affaires internationales et de sécurité.
Le bilan de l'ère Obama, qui a fait donc deux mandats, est-ce que vous diriez qu'il a changé les États-Unis et dans quelle mesure ?
Tout d'abord, je pense qu'il a eu deux mandats pendant une période très difficile. Il ne faut pas oublier que l'économie mondiale et le système financier est tombé dans une très grave crise dans les années 2007-2008 et les années qui suivaient. Et Barack Obama, avec sa politique économique, a réussi de sortir l'économie des États-Unis d'une crise assez profonde et plus rapidement que l'économie européenne en est sortie. Deuxièmement, il a introduit une réforme qui me semble très, très importante et compliquée à introduire aux États-Unis. C'est notamment un système de sécurité de santé publique. Cette assurance aujourd'hui divise encore le pays. Il y en a beaucoup qui critiquent l'idée même que l'État ou le système public prend une responsabilité. Mais en même temps, c'est vraiment un grand changement pour la société américaine. Et troisièmement, sur le plan international, Obama, il est arrivé avec le message qu'il va terminer les guerres et qu'il va réduire la présence des soldats américains dans le monde. Et donc, il a vraiment changé le ton de la politique étrangère des États-Unis. Le public américain n'a plus envie de dédier les mêmes ressources, à la fois financières, mais aussi en termes d'hommes, pour mener des guerres dans le monde.
Et sur les conflits entre noirs et blancs aux États-Unis, il avait éveillé beaucoup d'espoir et d'attente. Et pourtant, il laisse un pays dont on a l'impression qu'il est très divisé et où aussi il y a eu beaucoup d'émeutes raciales avec des policiers blancs qui ont tué des noirs. Quelle est votre analyse là-dessus ?
Il a certainement inspiré beaucoup, beaucoup d'espoir aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Je me souviens très bien de la réaction en Allemagne où le fait que c'était le premier président noir a quand même été vu comme une chose très importante et très fortement symbolique et une très belle chose. C'est vrai que la société américaine reste profondément divisée. Il y a eu, comme vous l'avez dit, des histoires très graves dernièrement, des réactions très violentes quand il y a eu des incidents mortels avec des policiers qui ont tué des Noirs sans raison visible. Et donc, à mon avis, c'est un problème très profond dans la société américaine qui n'est pas lié à Obama, qui est beaucoup plus profonde et qui est là depuis longue date, mais il n'a certainement pas pu résoudre ce problème. Et à mon avis, la campagne qu'a menée le candidat Trump, avec un élément de racisme très important, une discrimination, ça démontre qu'il y a quand même un groupe important dans la société américaine qui soutient cette approche. Tout cela pour dire que la société américaine n'est certainement, après 8 ans avec un président noir, n'est pas profondément changée.
Comment les Allemands et plus largement les Européens voient le départ de Barack Obama ? Vous disiez qu'il avait suscité aussi beaucoup d'espoir à l'étranger. Est-ce que c'est une page qui se tourne ?
Tout dépend qui sera le nouveau président. Hillary Clinton, c'est quelqu'un qu'on connaît assez bien parce qu'elle a été ministre des Affaires étrangères déjà et elle a apparemment bien travaillé avec la chancelière Merkel. Pour elle, les attentes sont plus ou moins claires. C'est vrai qu'une page se tournerait si Donald Trump serait élu, parce que c'est quelqu'un qui, sur plein de sujets, a pris des positions très radical. Il remet en question le système international dans lequel les États-Unis sont quand même le pilier le plus important. Et donc, il y a beaucoup de craintes en Europe par rapport à cette question.
C'était Daniela Schwarzer, directrice de la DGAP, la Société allemande de politique étrangère. Entre-temps, on a appris que Donald Trump serait le 45e président des États-Unis, président républicain donc. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Vous retrouverez cette émission dans notre médiathèque sur le dw.com/français, rubrique Vue d'Allemagne. Et puis si vous voulez nous écrire, il suffit de nous envoyer un mail à français@dw.com. Merci de votre fidélité, bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss. When you're down and out, when you're on the street.